En fait, tout a débuté il y a plus de 2 ans lorsque je reçois un peu par hasard un mail donc sur un réseau social qui est très décrié mais que je ne mentionnerai pas, de Cédric, donc, qui est à côté de moi, donc, qui est doctorant en économie à l'Université de Genève et que je ne connaissais ni d'Eve ni d'Adam, me disant que nos thèses portent sur des sujets très proches, très similaires, alors, c'est-à-dire les émeutes, les conflits, le climat, l'économie, etc., et qu'éventuellement, cela pourrait être intéressant d'échanger, de discuter. Et par hasard, 2-3 semaines après, on s'est retrouvés tous les deux embarqués dans un projet de recherche avec l'Université de Rennes 2, qui portait sur le fonds d'archives donc, de Jean-Nicolas et donc sur son enquête sur la rébellion française au XVIIIe siècle. Et après plusieurs discussions, et surtout après avoir découvert que nous avions deux passions communes, deux vices cachées pour les données quantitatives et la cartographie et les SIG, qu'on a commencé à échanger, partager des données, des articles, etc. Et au fur et à mesure, évidemment, l'idée est née que ce serait bien de travailler ensemble sur un projet d'article en lien avec nos thématiques de thèse, pas directement reliées à nos thèses, mais en lien avec nos thématiques de thèse. Et pourquoi la Normandie? Eh bien, tout simplement, alors je connais bien les sources de la Normandie, voilà, c'est un fait, mais surtout, on s'est rendu compte d'une grande richesse pour une enquête quantitative, des sources normandes, des travaux érudits normands au XIXe siècle, etc. Et donc, on a décidé de concentrer nos efforts sur la Normandie au XVIIIe siècle, puisqu'on travaille tous les deux plutôt sur le XVIIIe siècle, fin XVIIe siècle, et le XVIIIe siècle. Et donc, ça fait maintenant que plus d'un an que nous travaillons en parallèle de nos thèses, que Cédric vient de rendre, sur ce projet qui a pris forcément forme progressivement. Et vous l'aurez compris, c'est la première fois qu'on le présente, et donc c'est un travail qui est toujours en cours d'élaboration, toujours en cours de réflexion, et dont l'objectif final, c'est de publier, maintenant, en fait, on était parti sur un article, et puis maintenant, donc, c'est de publier plusieurs articles à partir des résultats qu'on a réussi à obtenir. Et donc, c'est pourquoi, vous l'aurez compris, nous sommes ravis de venir le présenter aujourd'hui, et surtout d'échanger avec vous et de recueillir vos avis, ce qui vous pose problème dans notre papier, etc., afin, nous, d'améliorer notre papier pour, on l'espère, d'ici plusieurs mois, le soumettre à une revue et d'améliorer sa qualité. Alors, donc, enfin, on a fait un dernier choix aujourd'hui, qui est plutôt de présenter, vous l'aurez compris, il y a plusieurs articles donc, qui sont en cours d'élaboration, plutôt que de présenter un article précis, on a décidé de vous présenter l'intégralité du projet, vu qu'on dispose de 55 minutes, et donc l'intégralité de ce projet qu'on a décidé de résumer sous le titre, un peu hasardeux, de « Production agricole, aléas climatiques et conflits sociaux en Normandie au XVIIIe siècle ». Voilà. Mais bon, entrons directement dans le vif du sujet, et pour les non-spécialistes de l'histoire de la Normandie au XVIIIe siècle, je vais commencer par un bref résumé du contexte historique au XVIIIe siècle. Alors, donc la Normandie, c'est, pour reprendre l'expression de Pierre Chaunu, historien de l'Université de Caen et fondateur du Centre de recherche en histoire quantitative, la Normandie, c'est une province terrienne tournée vers la mer. Alors, à l'époque, administrativement, la Normandie est divisée en 3 généralités, la généralité de Caen, la généralité d'Alençon et la généralité de Rouen, que vous voyez sur la carte qui se trouve derrière moi. Ces 3 généralités comporte 51 subdélégations, donc ce sont les petits numéros que vous voyez affichés sur le côté. Cette information est importante puisqu'en fait, c'est à cette échelle géographique que nous travaillons principalement dans le cadre de cette recherche. Enfin, la Normandie, à la fin du XVIIIe siècle, comporte 4200 communautés. Alors ça, c'est le terme choisi par Pierre Chaunu, plutôt que paroisse. Bon, c'est 4200 paroisses, ça se discute, etc., dans ses limites administratives. Alors, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, alors bien que la démographie ne constitue pas le cœur de notre projet, pour étudier les crises, donc ça, c'est le titre un peu du papier, et les stratégies de résistance ou de résilience des populations, et on reviendra sur ces deux termes, il nous a paru nécessaire de s'intéresser aux évolutions démographiques de la Normandie au XVIIIe siècle. Alors, donc, la Normandie au XVIIe et au XVIIIe siècle, c'est un monde que Pierre Chaunu, encore une fois, qualifie de monde plein. c'est-à-dire un monde, alors je reviendrai après, c'est-à-dire un monde, en fait, tout simplement, dans lequel la population a atteint ses capacités d'extension de la population et qui est caractérisée par une forte densité de population. Pour faire simple, au début du XVIIIe siècle, la Normandie, c'est environ 2 millions d'habitants avec les marges d'erreur qui existent dans les recensements de l'époque. Et à la fin du XVIIIe siècle, c'est 2 500 000 habitants. Alors évidemment, il y a une croissance de la population au XVIIIe siècle, mais qui est extrêmement faible, surtout si on la compare avec la population, évidemment, la croissance de la population française, qui à l'époque était de 33% entre le début du XVIIIe siècle et la fin du XVIIIe siècle. Donc là, on a, par exemple, pour la généralité de Rouen, seulement 5% de croissance, pour celle de Caen, 15,3%, etc. Donc c'est 2 millions d'individus. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les chiffres aussi de la population française au XVIIIe siècle, je vous rappelle que donc, la population française au début du XVIIIe siècle, c'est environ 20 millions d'habitants, et à la fin du XVIIIe, c'est 28 millions d'habitants. Donc vous voyez bien qu'ici, la Normandie, c'est à peu près 10% de la population française. En termes de superficie, c'est 33 000 km², donc c'est pareil, c'est environ 10% du Royaume de France à l'époque. Donc, et sa croissance démographique, vous l'avez vu, elle est très faible, surtout si on la compare notamment à la croissance démographique anglaise, qui est de 61%, et 33% pour la population française. Enfin, dernier aspect, la répartition de la population, on est au pôle rural, et bien elle est classique, environ 85% de la population normande au XVIIIe siècle est rurale, et évidemment 15% plutôt urbaine. Donc là, on se situe évidemment dans les moyennes nationales. Là où, et c'est pour cela que Pierre Chenu qualifie la Normandie de monde plein, on ne se situe pas, on déroge à la moyenne nationale, si vous voulez, eh bien c'est lorsqu'on regarde la densité de population en Normandie, qui est extrêmement forte dès le début du XVIIIe siècle. Puisqu'on arrive, donc alors 12-13 feux par kilomètre carré, pour obtenir le chiffre en termes d'habitants, il suffit de multiplier par 4,2 pour avoir un équivalent. Et donc, qu'est-ce qu'on observe dès le début du XVIIIe siècle? Eh bien, on observe des régions beaucoup nettement plus densément peuplées que d'autres, le Sud-Manche, la Seine-Maritime, et ce qui correspond en fait aux marais de la Dive, etc., le pays d'Auge, donc plutôt des pays herbagés, et la plaine céréalière au nord du pays de Caux. Alors, le pays de Caux se situe au nord, autour de Dieppe, etc. Maintenant, si on regarde à la fin du XVIIIe siècle, alors là, j'ai mis deux cartes différentes, par paroisse et la carte donc par district, puisque la Révolution française change les limites administratives, évidemment, après la Révolution. Et donc, qu'est-ce qu'on observe dans la répartition de cette population? Toujours les mêmes régions qui sont extrêmement peuplées, alors la Seine-Maritime, le Sud-Manche, mais surtout, on observe que la densité de population par habitant au kilomètre carré est extrêmement forte et dépasse toutes les moyennes nationales, puisque la Normandie est la région de France, l'une des régions de France les plus densément peuplées, puisqu'on atteint dans certains espaces autour de 100 habitants au kilomètre carré, ce qui correspond en fait au même chiffre qu'aujourd'hui dans certains espaces. Donc voici pour la population. Pour ceux qui ne sont pas familiers non plus avec l'histoire de la Normandie, je me suis dit que cette vieille carte pouvait toujours être utile, surtout qu'on y reviendra après, pour présenter les différents systèmes de culture au XVIIIe siècle en Normandie. Alors, juste, je passe très rapidement, mais on a plutôt ce qui correspond à la Seine-Maritime, en jaune, donc il y a un pays à rotation triennale sans jachère, dans lequel la jachère a disparu. On a le Sud-Manche, qui est caractérisé par des rotations à longue jachère, donc entre 2 et 3 ans en vert, et 5-6 ans dans le marron, rouge-marron, etc. Enfin, on voit le pays d'Auge et la vallée de la Dive, qu'on a déjà vu qui était très densément peuplée, où là, il y a une forte dominance des prairies permanentes, c'est-à-dire tout simplement des régions d'élevage, de prés et de pâturage. Voilà pour, et je ne vais pas m'attarder plus longtemps pour terminer ce tableau de la Normandie au XVIIIe siècle. Je vais tout de même reprendre une minute en plus pour brosser à très gros traits une présentation du contexte plutôt de l'économie normande au XVIIIe siècle, pour bien situer un peu notre propos. Alors, c'est tout d'abord, la Normandie est une des provinces les plus riches de France, tout simplement, puisque, alors déjà en termes d'imposition, 15 à 10% des impositions françaises, donc ce qui correspond en fait à sa population, ce qui est logique. Mais au XVIIe siècle, on était sur un niveau de 25% des impositions françaises qui étaient prélevées en Normandie. Autre aspect, la Normandie, et surtout Rouen, ça c'est dans un mémoire adressé à Colbert, Rouen est une des villes, et c'est cité telle quelle, les plus florissantes villes de l'Europe pour le commerce. Deuxième aspect, très important, vous l'aurez compris, donc c'est une province extrêmement commerciale, ouverte sur le monde par les ports de Rouen, du Havre, etc., dont Fleurs, qui totalisent entre 12 et 15% du commerce extérieur français au XVIIIe siècle. C'est également une économie extrêmement agricole et déjà extrêmement spécialisée, notamment par les travaux de Fabrice Poncet sur le beurre, l'économie laitière, ou d'Alain Gilles, par exemple, qui a montré une autre forme de spécialisation avec le sarrasin. Enfin, autre aspect, et là c'est délicat de le replacer, mais j'aimerais bien réussir à terme à le faire, quelle est la croissance annuelle en Normandie au XVIIIe siècle ? Elle doit être supérieure à la moyenne française, qui était, d'après Guillaume Dodin, de 0,6% par an. Enfin, la Normandie possède des centres urbains très importants, hein, Rouen, qui a longtemps été la deuxième ville du royaume. C'est également une région où ce qu'on appelle le capital humain, donc c'est-à-dire l'alphabétisation, etc., est extrêmement élevé, puisqu'il y a des écoles partout en Normandie au XVIIIe siècle, et 83% des hommes à la fin du XVIIIe siècle savent signer, et qu'on peut les considérer donc alphabétisés, et ça, je renvoie à l'enquête de Maggiolo. Enfin, la Normandie, c'est un centre intellectuel extrêmement fort en France et en Europe. On a une université, il y a aussi toutes les sociétés d'agriculture, d'encouragement au commerce, etc. Enfin, et dernier aspect, la Normandie, la Seine-Maritime, ce que je vous ai présenté comme étant le pays de Caux, c'est une économie spécialisée, extrêmement spécialisée, avec la production textile, ouverte sur le monde et extrêmement industrialisée, dont l'industrialisation est extrêmement précoce, puisque les contemporains n'hésitent pas à comparer Rouen et Le Havre, et la région autour, en fait, tout simplement la région de Manchester et Liverpool, où débutera la révolution industrielle. Et dans cette phase, on peut distinguer, dans cette Normandie, sur tout le XVIIIe siècle, c'est long, trois phases, principales à très gros traits, évidemment. La phase de 1680 à 1720, donc le début de la période, suite à la révocation de l'édit de Nantes, qui correspond à une phase de déprise économique ou de stagnation. La phase 1720-1730-40, où là, la Normandie connaît une reprise économique assez forte. Et puis après, on a une phase de croissance ininterrompue presque pendant tout le XVIIIe siècle, jusqu'au très funeste traité d'Éden en 1786, même si, et on le verra par la suite plus en détail, entrecoupé de quelques crises industrielles en 1751 ou 1768. Donc, pour résumer, et là je reprendrai encore une fois Pierre Chaunu, la Normandie est dans le dernier siècle de l'Ancien Régime un des secteurs les plus industrialisés des trois généralités normandes. Se sont maintenus parmi les cinq généralités les plus riches de France. Et donc, au vu de ces questions, peut-on donc mesurer les progrès du niveau de vie des Normands énoncés par Pierre Chaunu en 1970 dans l'ouvrage qu'il a consacré à l'histoire de la Normandie ? Et vous l'aurez compris, donc, cette recherche s'inscrit et reprend les grandes problématiques de la littérature et l'historiographie de l'école des annales, mais aussi, donc, c'est-à-dire l'étude par les prix, la démographie historique, etc., mais aussi des travaux menés par le CRHQ dans les années 70, à l'époque où il était le fer de lance de la recherche en histoire quantitative en France. Cependant, dans le cadre de ce projet, nous ne nous limitons pas à cette littérature, puisque pour répondre aux questions que nous nous posons ici, nous reprenons et nous inscrivons aussi dans le renouveau qui est à l'œuvre en démographie et en histoire économique, renouveau en grande partie initié par les économistes qui s'intéressent au XVIIIe siècle. Mais là, je laisse la parole à Cédric pour vous présenter tout cela.
Donc, comme Paul vient de vous l'expliquer, depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, on observe un nombre très important de travaux qui s'intéressent à réétudier l'évolution des niveaux de vie, du développement économique en Europe, mais aussi plus largement dans le monde, que ce soit en Amérique du Sud, en Chine. Et comme vous pouvez le voir à travers ce graphique qui est tiré d'un état de la littérature sur la question, de manière assez surprenante, et malgré la tradition historique qui existait en France, la France est relativement absente de ces débats en dépit du fait qu'elle était à l'époque l'une des premières puissances européennes. Donc vous pouvez voir sur ce graphique qui vous présente des estimations de PIB par habitant, donc qui vous donne une idée de la richesse de chacun des pays, donc entre le XIVe siècle et la fin du XVIIIe siècle. Et donc vous pouvez voir ici que des estimations ont été réalisées pour la Hollande, pour l'Angleterre, la Suède, le Portugal, l'Espagne, mais aussi la Pologne, certains pays baltiques, etc. Mais aucun travaux de nature similaire n'a été réalisé pour la France sur, globalement, les 20 dernières années. D'accord ? Donc c'est un des objectifs aussi de ce projet de recherche, c'est de contribuer à cette littérature plus large qui s'intéresse justement à cette question du croissance et développement économique au sein de l'Europe. Pourquoi cette question elle est importante ? Eh bien, en histoire économique, on a, au cours de ces dernières années, donc vous pouvez le voir ici à travers les nombreuses citations d'articles que vous voyez sur le deuxième point, puisqu'en fait, on a trois questions qui refont surface dans le champ de l'histoire économique, qui font pour certains écho à des questions, on va dire, actuelles. Donc la première question fait écho à l'idée du trop-plein démographique, d'accord ? Donc comment expliquer les crises démographiques et surtout la disparition au cours du temps, au cours du XVIIIe siècle, de ces crises démographiques, d'accord ? Donc est-il possible d'identifier des schémas spatiaux, temporels, dans cette disparition des crises démographiques ? Première question importante pour les historiens économiques en Europe. Deuxième question qui découle immédiatement de la première, la question des famines, d'accord ? Donc dans le cas où on devrait encore observer des famines, comment expliquer ces famines ? Donc s'agit-il d'une question de limitation de la production ? Donc le fameux schéma classique du choc climatique qui va avoir un effet négatif sur les récoltes et qui, de fil en aiguille, va se répercuter sur les variables démographiques, ou au contraire, s'agit-il, comme l'a suggéré Amartya Sen, de problèmes de distribution, d'accord ? C'est-à-dire que ce n'est pas un problème de production, nous produisons suffisamment pour subvenir aux besoins de toute la population, mais les marchés fonctionnant mal, il s'agit en fait d'un problème humain, d'accord ? Donc l'idée est un peu aussi de parler à ce débat et aux différents travaux qui sont effectués à cette question. Et enfin, la dernière question à laquelle nous souhaitons contribuer, le dernier débat, s'intéresse à l'essor de la révolution industrielle. D'accord ? Donc ici, l'objectif des historiens économiques qui s'intéressent à cette question est de comprendre pourquoi est-ce qu'on observe un essor de la révolution industrielle, d'abord en Angleterre, plutôt qu'ailleurs en Europe, voire même en dehors de l'Europe. Et une des hypothèses phares dans ce débat qui a été développé par Robert Allen, et l'idée que ce sont les salaires réels très élevés en Grande-Bretagne qui ont poussé les capitalistes à investir dans les machines plutôt que dans les hommes, puisque c'était relativement moins cher. Et la conséquence directe de cet investissement dans du capital va être une augmentation de la productivité, et ce qui, à moyen ou long terme, va évidemment favoriser très largement la croissance économique de l'Angleterre. Évidemment, cette hypothèse ou ce point de vue est très largement débattu dans la littérature et de nombreux chercheurs aujourd'hui soulignent qu'on avait des niveaux de salaire réels élevés, voire aussi élevés qu'en Angleterre dans d'autres pays en Europe. Et pourtant, nous n'avons pas observé le même cheminement de logique d'investissement sur des produits, on va dire, ou une production à plus forte intensité de capital. Et donc l'idée un petit peu de ce projet de recherche que nous vous présentons aujourd'hui, c'est de répondre aussi plus largement aux questions posées dans ces trois débats. Donc si je devais résumer un petit peu la présentation d'aujourd'hui, donc pour les 45 minutes qui nous restent, on va globalement adresser quatre questions. Donc la première ça va être donc de savoir ou d'identifier à nouveau quelles sont les disparités spatiales et temporelles des crises démographiques en Normandie. Donc est-ce que tous les espaces font aussi vulnérables face aux problèmes, aux chocs économiques, aux chocs climatiques, etc. Ou est-ce qu'on observe des différences ? Et est-ce qu'on observe aussi des différences dans le temps ? Évidemment, la question qui découle de cette première question, une fois qu'on observe donc ces disparités, je vous spoil un peu le résultat, c'est comment expliquer ou comment comprendre ces disparités, d'accord ? Donc quelles sont les réactions des populations lorsqu'ils font face à ces crises et quel type de comportement ou de stratégie adopte-t-il ? Donc on va faire écho à ce que Paul vous a mentionné plus tôt, donc l'idée de résistance ou résilience. Et enfin, plus largement, la question derrière ces deux premiers points, c'est la question de l'évolution générale du niveau de vie. Donc comment le niveau de vie varie au cours du XVIIIe siècle à l'aune de ces différentes crises. Et donc, comment varie-t-il aussi, comment se situe-t-il par rapport plus largement à l'espace français ? Donc, est-on relativement plus riche en Normandie qu'ailleurs en France ? Et en Europe, plus largement, est-ce que la Normandie est plutôt dans le haut du panier, donc près de l'espace, on va dire, Manche, donc Pays-Bas, enfin, Provinces-Unies, Angleterre, ou alors plus près du monde méditerranéen, donc l'Espagne ou l'Italie ? Donc voilà un petit peu ce à quoi on va s'attacher pendant les 45 prochaines minutes, ou 40 prochaines minutes maintenant. Donc je laisse la parole à Paul pour vous faire un bref récapitulatif des crises climatiques qui ont marqué le XVIIIe siècle.
Merci. Alors, donc, comme pour les présentations du contexte historique, etc., je ne sais pas si tout le monde est familier avec la chronologie des crises démographiques et climatiques en France au XVIIIe siècle. Donc, j'ai juste rajouté ce tableau hein, tiré d'un des pionniers de l'histoire du climat, ou le pionnier, en fait, hein, Emmanuel Leroy Ladurie, et de l'enquête de l'INED en 1975, donc, qui récapitule, en fait, les différentes crises démographiques et climatiques, donc toutes causées, en fait, par des événements climatiques. Donc, par exemple, eh bien, le grand hiver de 1709, la disette qui l'entraîne, ou bien la crise de 1693-94, etc. À côté, vous avez en fait le nombre de décès entraînés par ces événements. Donc, par exemple, en 1693-94, ce serait 1,3 million de décès enregistrés en France pendant la crise, ce qui correspond tout de même à 1/20 de la population française à l'époque. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les principales crises identifiées, et évidemment ces crises identifiées, eh bien vous en doutez, elles ont marqué les contemporains, ces aléas climatiques, puisque je vous rappelle qu'on se situe encore dans ce qu'on appelle le petit âge glaciaire qui va de 1300 à 1800, et donc qui est caractérisé par des températures à la surface de la Terre beaucoup plus faibles qu'aujourd'hui. Et donc c'est... Au-delà de l'aspect un peu meurtrier et vertigineux de ces chiffres, chacune de ces crises a marqué les esprits des contemporains qui font tous état, à leur manière, dans leurs journaux, dans leurs mémoires, des réalités climatiques de l'époque. Si je prends par exemple 1709, cette année 1709 est fameuse par la rigueur de son hiver qui fit mourir la plupart des arbres, des animaux et des oiseaux. Cet hiver fut suivi d'une sécheresse extrême et toutes les denrées nécessaires à la vie de l'homme. De toutes les denrées nécessaires à la vie de l'homme, pardon. Donc là, on se situe dans le mémorial donc de la ville de Lisieux. Voilà. Et on peut répéter l'événement, par exemple, en 1768, qui est marqué par de fortes inondations, etc. L'an 1768, l'eau a été abondante, etc., etc. Je passe rapidement pour gagner du temps. Ces sources qualitatives ont aussi, d'autres sont parfois plus précises. Par exemple, vous connaissez certainement, si vous l'avez étudié au lycée, le fameux orage de grêle de l'année 1788, qu'on considère souvent comme étant un des facteurs déclencheurs de la Révolution française, puisque parce qu'il détruit toutes les récoltes, il entraîne une augmentation du prix du pain, et je vous fais écho après aux événements de la Révolution française, qui débutent par des émeutes dans les boulangeries, liées à cause de la cherté des prix du grain, et évidemment après la célèbre marche des femmes à Versailles, les 5 et 6 octobre, qui réclament du pain. Donc là, on voit évidemment l'orage de grêle de 1788 qui est cartographié dès 1789. Et qu'est-ce qu'on remarque ? Eh bien que cet orage de grêle, eh bien, il n'a pas touché la Normandie. Et donc c'est là l'une des limites principales en fait, des sources qualitatives pour étudier le climat. C'est que on ne peut pas bien saisir les effets du climat sur tous les espaces. Par exemple, si on considère que l'orage de grêle a touché la Normandie et qu'on considère qu'il y a une crise climatique pour expliquer, par exemple, la crise qui va survenir en Normandie, eh bien, ce n'est pas imputable à la grêle. Et donc, là, on se retrouve vraiment aux limites de ces sources. Et je vais maintenant donner la parole à nouveau à Cédric, qui va vous présenter, en fait, eh bien, d'autres données qui peuvent venir et bien, compléter ces données qualitatives.
Donc, comme vous l'a présenté Paul, donc, malgré la richesse de ces sources qualitatives, évidemment, une de leurs limites est qu'elles ne couvrent à la fois pas systématiquement tout le territoire, mais aussi pas systématiquement toutes les années. Donc les années normales, entre guillemets, là où il ne se passe pas grand-chose, on a assez peu d'informations finalement sur l'évolution de la météo à des niveaux suffisamment locaux. Et donc une des possibilités, on va dire, pour contourner cette limitation, c'est de faire appel à des travaux issus donc, de la paléoclimatologie. Donc les paléoclimatologues s'attachent à reconstruire l'évolution du climat donc, d'un point dans l'histoire. Dans les siècles passés, donc à travers des méthodologies dont vous avez probablement déjà entendu parler, donc la dendrochronologie, donc c'est l'analyse des cernes d'arbres, mais c'est aussi l'analyse des sédiments dans les lacs, c'est les analyses dans les prélèvements avec les carottes glaciaires, et toutes ces méthodes qui, combinées, en fait, permettent de produire des estimations assez fiables de température et de précision, et de précipitation, pardon, saison par saison, année par année, à un niveau très détaillé. D'accord ? Donc, ce que nous faisons dans ce projet, c'est que nous utilisons donc les bases de données donc, mises à disposition par des paléoclimatologues pour estimer, donc saison par saison, comme je vous l'ai dit, année par année, pour chacune des subdélégations normandes, donc les 51 subdélégations dont on vous a mentionné l'existence au début de cette présentation, donc estimer la température et les précipitations dans chacune de ces saisons. D'accord ? Donc ça, c'est ce que nous faisons dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, vous pouvez voir ici la formule sur la gauche donc, de la diapositive. Nous cherchons à comprendre en quoi la température observée, disons par exemple pendant l'hiver 1709, constitue une anomalie par rapport à la température habituelle dans cette zone, d'accord ? Donc, ce que nous faisons tout simplement, c'est que nous créons une variable température et nous comparons la température à cette date par rapport à la moyenne de long terme. Et nous divisons ensuite par l'écart type, simplement pour standardiser. Mais ce que vous devez retenir, c'est ça nous permet de créer donc une variable qui, année après année, pour chacune des subdélégations, va nous donner une idée du caractère anormal ou non des niveaux de température et de précipitation. D'accord ? Donc ça nous donne des valeurs positives si l'anomalie est plus importante. Donc s'il fait plus chaud que dans la moyenne, à ce moment-là, on a une valeur positive. Et plus la valeur est forte, plus l'écart à la moyenne est important. Et au contraire, si on a une valeur négative, eh bien, ça veut dire que il fait d'autant plus froid ou on a d'autant moins de précipitations que par rapport à la moyenne. Donc vous pouvez voir ici, sur la droite du diapositive, donc, par exemple, l'évolution ou l'état des anomalies climatiques donc, pendant le grand hiver de 1709. Donc, comme on peut l'attendre, donc, un hiver très très froid, les anomalies sont négatives et assez fortement négatives. D'accord ? Donc, ce qui, comme le montrent comme le suggèrent les sources qualitatives, effectivement, c'est un hiver très froid, mais vous pouvez voir les disparités spatiales dans la rigueur de l'hiver au sein de l'espace normand, d'accord ? Et donc on répète ce type d'analyse pour chacune des saisons, chacune des années sur tout le 18e siècle. Donc je laisse maintenant, pour vous présenter un aspect suivant de notre recherche, la parole à Paul, donc pour présenter les données démographiques que nous utilisons dans ce projet.
Alors, donc, alors, avant toute chose, parce que pour collecter ces données, je tiens avant tout à remercier les cercles généalogiques, donc de la Manche, du Calvados, de l'Eure, qui nous ont et de la Seine-Maritime, pardon, qui nous ont donné accès, ça marche plus, qui nous ont donné accès en fait à leur base de données de généalogie, et ce qui nous a permis, de collecter plus de 900 séries de BMS pour la Normandie. Alors, qu'est-ce qu'on entend par BMS, pareil pour les non-initiés, bien, ce sont les registres de baptême, mariage et sépulture, où chaque baptême qui survient dans une paroisse est enregistré par le curé. Puis chaque sépulture également, et ce qui peut, à la fin d'une année, en fait, vous obtenez un total du nombre de baptêmes, mariages, sépultures, ce qui est les principales sources pour les historiens de la démographie. Donc, on en a collecté plus de 906 séries, ce qui nous fait un total de 378 000 et quelques observations. Et ce que vous voyez à gauche, enfin derrière moi du coup, eh bien c'est le nombre de séries dont on dispose en fonction des départements. Donc on voit ici le Calvados, on a à peu près entre 180 et 190 séries complètes, parce qu'évidemment, des fois les registres ont disparu et des fois on n'a que 1720, 1740 par exemple. Il s'agit de toutes les séries complètes entre 1690 et 1790. À terme, on aimerait élargir cette étude hein, de 1630, par exemple, 1790. Donc l'heure, on a également plus de 200 séries pour l'heure, plus de 300 pour la Manche et 400 pour la Seine-Maritime. Alors l'Orne, on a très peu de séries. Évidemment, pourquoi ? Eh bien, on n'a pas eu accès aux données du cercle généalogique de l'Orne et du Perche. Et là, on a complété, eh bien, tout simplement, grâce aux travaux de vos prédécesseurs ou des travaux des étudiants de licence, hein, parce que chaque année, vous dépouillez tous une paroisse en BMS. Eh bien, on a fait quoi ? Eh bien, on a collecté, on a récupéré ce que vous avez, les données brutes, qu'on a évidemment intégrées dans ce projet. Donc, vous, sans vous le savoir, vos travaux, en fait, ont participé à celui-ci. Voilà. Et enfin, on pourra à terme étendre pour l'heure, puisqu'on dispose de l'âge au décès et également de l'origine géographique des conjoints, mais on n'a pas eu le temps de le faire pour aujourd'hui. Et donc, comment se répartissent ces séries ? Eh bien, de la manière suivante. Et pourquoi il nous a paru important de collecter autant de données ? On aurait pu faire des sondages, évidemment, ce qui aurait été beaucoup plus rapide. Sauf que Pierre Goubert, dans son enquête sur le Beauvaisis, mettait en garde contre l'utilisation des sondages démographiques, qui sont pour lui des détails, mais qui disent combien il faut, parce qu'en fait il étudie deux paroisses différentes, et en fait il observe des relevés démographiques très différents s'il y a la présence d'une abbaye ou non à côté, abbaye qui permettait d'assurer la charité. Et donc Pierre Goubert dit que ce sont des détails, mais qui disent combien il faut se méfier des sondages et mener avec conscience une enquête régionale. Donc on a décidé eh bien, tout simplement de mener une enquête régionale. Pour information, pour la Normandie, à chaque fois, Pierre Chaunu, dans son enquête démographique, eh bien, il avait procédé par sondage en collectant 40 ou 50 paroisses seulement. Donc là, voilà. Donc on tient également à remercier eh bien, Merwan, qui est ici présent, puisque Merwan a participé à la collecte et à l'enregistrement de ces données démographiques, ce qui est parfois un peu long et fastidieux. Donc vous voyez qu'on couvre très bien la Seine-Maritime, toute la généralité de Caen, l'Eure également, et évidemment l'Orne, un peu le parent pauvre, le Perche, on dispose de moins d'informations. Mais on peut dire, je pense, que notre enquête démographique, qui compte donc 900 paroisses, sur les 4000 que comptait la Normandie, eh bien on a un quart des paroisses, ce qui, pour un échantillon statistique, commence à être suffisant. Et évidemment, l'objectif, c'était de couvrir le plus d'espace possible, pour voir évidemment si les crises étaient les mêmes, ou est similaire ou varié en fonction des espaces. Mais là, je relaisse la parole à Cédric qui va vous expliquer en fait comment on a traité ces données en fonction et comment on a mesuré justement, parce que chaque crise démographique qui survient, l'important c'est de dire est-ce que c'est vraiment une crise démographique par rapport à la normale ou bien c'est un tout petit peu supérieur, etc. Mais je laisse la parole à Cédric qui va vous expliquer comment on a mesuré l'intensité de ces crises démographiques.
Effectivement, une fois que nous avions constitué cette base de données, donc le travail n'était pas fini, et un des enjeux était effectivement de savoir comment mesurer ces crises démographiques. Et donc, lorsque nous sommes intéressés aux travaux de démographie historique, nous avons fait face à un problème, c'est la multiplicité des méthodologies pour identifier ces crises. D'accord ? Donc, on n'a pas une méthode par historien démographe, mais presque. Et donc, ce que nous avons commencer par faire, c'est identifier certaines méthodologies qui nous paraissaient pertinentes et comparer les résultats lorsqu'on utilisait chacune de ces méthodologies pour voir si l'intensité des crises démographiques était les mêmes lorsqu'on utilisait, par exemple, la méthode Goubert ou la méthode du paquet. D'accord ? Donc, vous avez ici les trois méthodes que nous avons retenues dans un premier temps. Donc, la méthode Goubert, pour aller très rapidement, donc, est une crise démographique toutes les années où nous avons un doublement des décès et une diminution d'un tiers des naissances. D'accord ? Donc ici, l'avantage, c'est que vous ne prenez pas seulement en compte la mortalité, vous prenez aussi en compte la fécondité, la natalité. D'accord ? La deuxième méthodologie donc, qui est proposée par Dupaquier et revue donc, par Alain-Gilles Chaussat très récemment, c'est d'étudier le caractère anormal de l'épisode de mortalité par rapport à la moyenne de long terme. D'accord ? Donc, ce que vous pouvez regarder ici, c'est le X. D'accord ? Donc, c'est le niveau de mortalité à une année donnée par rapport à la moyenne de long terme. Et à nouveau, vous divisez par l'écart type simplement pour standardiser. Ce que vous pouvez retenir, c'est, voilà, différence par rapport à la moyenne de long terme. Et enfin, une troisième méthodologie qui nous a paru pertinente puisqu'elle permettait de s'intéresser, on va dire, à la couverture spatiale ou à l'étendue spatiale de ces crises démographiques. C'est la définition proposée par Paolo Malamina qui est on veut observer une augmentation de 50% des décès dans au moins 50% des paroisses de l'espace étudié. Et donc, lorsqu'on procède au calcul en utilisant chacune de ces données, voici les résultats qu'on obtient. Donc, rien de surprenant dans les tendances observées. Donc, vous pouvez voir l'importance majeure donc, de 1693-1694, d'accord ? Donc, épisode déjà très bien documenté et souligné donc, dans la chronologie de Emmanuel Leroy Ladurie qu'on vous a présenté au début de cette présentation. Peut-être première petite surprise, ce que vous pouvez observer pour la Normandie, c'est que a priori, on observe une intensité des crises démographiques plus importante pour le début des années 40 que pour 1709. D'accord ? Donc, ce qui suggérerait que le schéma des crises démographiques en Normandie n'est pas tout à fait le même que celui des crises démographiques lorsqu'on s'intéresse à la France en tant qu'unité. D'accord. Si maintenant on s'intéresse un petit peu plus à la question des pourcentages et le biais méthodologique, donc l'importance de la méthode, donc vous pouvez voir qu'en 1693, on a plus de 600 paroisses qui connaissent une crise démographique, donc ça fait plus de 2/3 des paroisses qui sont concernées. En 1740, enfin les débuts des années 40, on a environ 180 paroisses, ça fait moins de 20% des paroisses où on aurait effectivement une crise démographique. Si on passe à la deuxième méthode, donc l'indicateur, on va dire, du paquet chez ça. Donc, on retrouve les mêmes tendances. Pas de surprise ici, c'est plutôt rassurant. Par contre, ce qu'on observe, c'est que sur la période 1693-1694, on a seulement 430 paroisses contre les 600 selon la méthode Goubert. D'accord ? Donc ici, on a seulement 50% des paroisses et non plus 2/3 des paroisses qui font face à une crise démographique sur cette période. De la même manière, en 1740, on observe un nombre beaucoup plus important, quasiment 30% des paroisses, qui feraient face à une crise démographique, alors que l'indicateur Goubert nous indiquait moins de 20% des paroisses. Donc vous voyez ici l'importance de la méthode ou l'influence que peut avoir la méthode sur la lecture des résultats à partir de données absolument similaire à la base, d'accord ? Donc pour le moment, on n'a pas vraiment tranché, puisqu'on est encore au début de ce projet, sur quel était le meilleur indicateur ou la meilleure manière d'adresser cette question et ces, on va dire, différences dans les résultats, mais c'est quelque chose à laquelle on réfléchit, d'accord ? Donc je vais passer donc sur ce graphique, mais ici, c'est donc la troisième méthode que je vous propose, et à nouveau, vous pouvez voir qu'on a une variation donc, dans les nombres... pourcentage des paroisses qui seraient en crise, donc selon cette dernière, donc la troisième méthode, donc 50% des décès, dont 50% des paroisses, vous pouvez voir qu'on est environ à 50% de paroisses, donc entre le 2/3 et la méthode précédente, pour 1693, et on serait à 40% de paroisses, à peu près, en 1740. Donc au-delà des 20% de Goubert et des 33% du paquet Chaussard. Donc vous voyez bien un petit peu la difficulté d'étudier de manière cohérente ces crises démographiques suivant l'indicateur que vous choisissez. Donc, maintenant qu'on vous a à peu près peint, on va dire, l'évolution des crises démographiques en Normandie, donc sans vraiment vous apprendre rien de nouveau jusque-là, si ce n'est l'importance de la méthode, on va s'intéresser maintenant à la question des disparités spatiales, puisqu'ici, on s'intéresse à toute la Normandie en tant qu'espace et on ne prend pas du tout en compte le fait que la généralité ou les communautés autour de Caen, autour de Rouen, autour d'Alençon ou dans différents espaces, peuvent réagir de manière différente aux mêmes événements. Et donc, c'est ce que nous allons faire pendant les prochaines diapositives. Donc, ce que vous pouvez voir ici, donc, c'est l'évolution donc, du nombre de sépultures et de baptêmes pour 1000 habitants dans la généralité de Caen. Donc, sans surprise, on retrouve les pics bien identifiés par la démographie historique. Donc, vous pouvez voir la courbe des sépultures, donc les pics en 1693-1694, Le deuxième pic important dans les années 40, et à nouveau, comme on l'a signalé, je viens de vous le montrer, bah, finalement, 1709-1710, qui semble être une crise démographique relativement mineure pour la Normandie. Donc ici, on s'intéresse à la généralité de Caen. Ce que vous pouvez voir sur la généralité de Caen, c'est que globalement, on a un schéma complètement différent de la généralité de Rouen, puisqu'ici, il semblerait qu'on observe très peu de crises démographiques sur cette période. Donc voilà. Et Alençon est dans une situation à peu près, on va dire, intermédiaire. Si maintenant on s'intéresse vraiment à la question des disparités spatiales, donc on peut encore aller à un niveau plus fin que la généralité, donc les subdélégations. Donc vous le voyez ici, je vous présente une carte qui vous montre donc toujours le nombre de sépultures pour 1000 habitants pour la période 1694. Et vous pouvez voir la différence frappante entre, on va dire, la Seine-Maritime, où on a un taux de mortalité très fort, donc souvent supérieur à 40-50 pour 1000, et au contraire, l'ouest de la Normandie, qui reste dans des taux, on va dire, plus courants en termes de mortalité. Donc vous voyez bien ici l'intérêt d'étudier ces crises démographiques à différentes échelles. Donc je passe sur les cartes suivantes, mais l'idée globalement se répète qu'on observe voilà, des disparités géographiques très importantes dans ces crises démographiques. Donc pour comprendre un petit peu pourquoi on observe ces différences, on s'intéresse maintenant à d'autres. On s'intéresse dans la suite du projet à d'autres questions, et donc notamment la question des résistances ou de la résilience des populations à travers l'étude des émeutes. Et je laisse la parole à Paul pour vous parler de ça.
Maintenant qu'on a vu l'intensité des crises climatiques, démographiques, etc. en Normandie en fonction des espaces, eh bien, on va s'intéresser tout simplement aux rébellions et aux émeutes, puisque ben là, on travaille tous les deux sur ces aspects-là. Est-ce que l'on retrouve cette intensité, en fait, des crises démographiques, climatiques, etc. Est-ce qu'elles se répercutent, en fait, sur l'intensité dans la rébellion? Puisque la rébellion, est-ce qu'elle constitue, en fait, une stratégie de résistance aux différents chocs? Ou bien, est-ce que la vieille hypothèse, en fait, selon laquelle, lorsqu'il y a une famine, crise démographique importante, une famine, eh bien, on ne se révoltait pas. Eh bien, lorsqu'on mourait de faim, eh bien, est-ce que cette hypothèse se vérifie? Pour étudier cet aspect, certains d'entre vous le savent déjà, hein, donc on dispose d'informations sur les émeutes, notamment depuis l'enquête de Jean-Nicolas, qui a quantifié et recensé plus de 8500 émeutes en France. Donc, en bleu, là, sur le graphique derrière moi, en fait, c'est la chronologie de ces rébellions. En rouge, vous avez les émeutes de subsistance. Et on voit bien ici les différents pics en fonction du nombre d'émeutes recensées. Eh bien, tout simplement, le plus important étant 1709. Or, en Normandie, 1709 ne semble pas être une crise démographique. Donc, il s'agit évidemment de comprendre un peu tout cela. Lorsqu'on regarde, évidemment, la géographie de ces rébellions en France au XVIIIe siècle, de quoi on s'aperçoit? Eh bien que sur les 1500 émeutes de subsistance en Normandie, enfin en France, pardon, excusez-moi, eh bien 179 ont lieu en Normandie. Donc là, on pourrait se dire, eh bien on retrouve les 10%, 10%, 10%, 10% de notre début, 10% d'émeutes, 10% de population, etc. Évidemment, depuis 3 ans, j'ai tenté de réétudier le dossier Jean-Nicolas pour la Normandie, hein, donc qui prend cette forme-là dans sa chronologie, en élargissant l'enquête, en allant chercher de nouvelles sources, etc. Donc j'ai recensé depuis 427 émeutes à la place des 179, et qui se répercutent de cette manière-là et qui changent en fait l'allure du graphique proposé par Jean-Nicolas, puisque la crise de 1709, donc là j'ai mis à chaque fois le pic émeutier donc dans ma base de données en fonction du choc climatique identifié. 1709 apparaît complètement diminué par rapport au graphique de Jean-Nicolas. En revanche, de nouvelles crises sont apparues, 1751, 1768, qui ne correspondent pas à des crises de mortalité importantes. De même, 1740, qui est la deuxième crise de mortalité en termes d'intensité la plus importante en Normandie, eh bien, il n'y a aucune émeute recensée en Normandie. Bon, évidemment, il y a 1789. Bon, là, on l'a un peu exclu pour l'instant de notre étude, puisque c'est aussi, il y a également toutes les émeutes révolutionnaires. Dans le point de vue de la chronologie, déjà, il y a des discordances. Maintenant, où sont réparties ces émeutes en Normandie? Eh bien, si on les met sur une carte, eh bien, elles se situent logiquement, en fait, autour des grandes villes et le long des principaux axes routiers. Si on prend la même carte pour 1789, évidemment, on retrouve la même logique spatiale des émeutes. Donc, loin des centres des grands axes routiers, peu d'émeutes. Maintenant, après, bon, je passe rapidement. Maintenant, j'ai essayé de regarder l'intensité de ces émeutes en fonction du nombre d'habitants. Et donc, j'ai calculé un indice rébellionnaire pour 10 000 habitants en Normandie, par subdélégation, évidemment. Qu'est-ce que l'on remarque ? Eh bien, c'est qu'il y a quelques subdélégations, donc la subdélégation de Caen, mais en fait, c'est surreprésenté à cause de la ville de Caen. Et sinon, la plupart des émeutes entre 1709 et 1788, eh bien, sont localisées où ? En Seine-Maritime. Et si on se souvient des graphiques, là, pour le coup, sur la démographie, eh bien, l'intensité des crises démographiques avait lieu en Seine-Maritime. Évidemment, derrière, il y a d'autres facteurs qu'on aimerait prendre en compte. C'est la question des la spécialisation économique. Et à terme, on espère pouvoir affiner cette analyse. Mais voilà un peu comment se répercute, se cartographie ces crises de subsistance. Bon, comment on peut expliquer maintenant cette intensité de la rébellion et ces disparités spatiales ? Est-ce dû à l'action des subdélégués, donc l'action de l'État ? Bon, on n'y croit pas et on écarte pour l'instant cette hypothèse. Ou bien, cela veut dire qu'il y a une meilleure résilience de la part des populations en fonction des structures économiques et sociales. Et pour ces populations, donc par exemple pour les populations du Bocage, du Sud-Manche, etc., dans un système plutôt de polyculture, à jachère longue, etc., est-ce que, eh bien, pour eux, la rébellion ne constitue pas, en fait, tout simplement, une stratégie de résistance privilégiée qu'ils préfèrent, plutôt, alors qu'en Seine-Maritime, eh bien, la rébellion semble plus adaptée. Alors, pour terminer, évidemment, là, je vais être très rapide là-dessus, avant de conclure, de laisser la parole à Cédric pour conclure. J'ai tenté une expérience qui est très simple, de reconstituer, en fait, la production, puisque, comme vous le savez, émeute de subsistance, c'est lié à la production agricole, et donc j'ai tenté de calculer la quantité de blé disponible par habitant en kilos par an en fonction de la production. Alors j'ai pris une année pour lesquelles on dispose de données, donc données par Beaurepaire, en 1793. Qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien tout simplement que la production, la quantité de blé disponible par habitant, elle varie extrêmement en fonction des espaces et des régions, et que on considère que normal à peu près, si chaque habitant a entre 200 et 400 kilos de blé par an. Là, vous voyez que dans l'arrondissement de Rouen, on est à 68 kilos de blé par habitant. Ce qui peut expliquer, ce qui signifie que c'est une région donc en tension, qui connaît des tensions agricoles et qui peut potentiellement expliquer le plus grand nombre d'émeutes, ce qui paraît logique. Bon, évidemment, là, c'est qu'une prise à un instant T, et évidemment, ça ne rend pas bien compte de la production sur l'ensemble du XVIIIe siècle, on s'en doute, mais on a voulu faire le test. Qu'est-ce que l'on a fait ? Eh bien, on a collecté des séries de prix du blé en Normandie au XVIIIe siècle, qui est le vieil indicateur pour chiffrer la production au XVIIIe siècle depuis l'école des annales, etc. Donc là, je passe sur les sources, hein, on pourra en discuter, mais on a réussi à collecter 17 séries de prix pour la Normandie. Alors là, voici une carte juste pour vous indiquer en fait l'état des marchés en Normandie et le réseau routier principal et secondaire. Donc je passe rapidement, je suis désolé. Et voici les prix qu'on a réussi à collecter, les séries de prix qu'on a réussi à collecter pour la Normandie. Donc ce qui est en fait beaucoup plus que toutes les études précédentes, parce que souvent on se sert d'une série de prix ou deux pour une région, voire même des fois pour la France, en fonction. Donc là, on voit qu'on a quand même des manques, hein, la région de Conche, Verneuil et puis le Sud-Manche. Pour combler ce problème-là, on a utilisé des villes frontalières. Par exemple, on a utilisé la ville de Mamers, qui est dans la Sarthe, ou bien Abbeville, etc., pour compléter et voir si on observe des différences dans l'évolution, les tendances des prix. Qu'est-ce que cela donne lorsqu'on regarde ça dans la longue durée ? Eh bien, on voit qu'on a tout simplement un marché qui est intégré en Normandie. Tout simplement puisque les courbes présentent des tendances similaires et les prix sont corrélés en fonction des différentes villes de la Normandie au XVIIIe siècle. On remarque quoi, en revanche ? C'est que l'intensité la plus forte dans les prix, elle a lieu en 1709, alors qu'on n'a pas de crise démographique véritable. En 1740 également, mais varie. Donc, bon, là, je passe rapidement, mais voici la matrice de corrélation entre les différents prix des blés et les différentes villes. On a regardé s'il y avait également des différences spatiales. Donc là, on a pris les prix dans la généralité de Caen, hein, Bayeux, Caen, Cheux. Qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien, que les prix sont exactement les mêmes. Si on regarde à présent pour la généralité de Rouen, c'est à peu de choses près la même chose. Maintenant, si on regarde pour Rouen avec des villes adjacentes, hein, Magny-en-Vexin, Neufchâtel, Abbeville, etc., eh bien, le constat, la conclusion, les conclusions sont les mêmes. Et enfin, si on compare avec d'autres villes de France, eh bien, on retrouve les conclusions faites par les historiens économistes pour la France au XVIIIe siècle, hein, c'est-à-dire qu'on a un marché national des grains qui est plutôt bien intégré en France au XVIIIe siècle. Donc, si les marchés sont intégrés, cela signifie que les grains circulent bien entre les espaces. A priori, donc, les crises de subsistance sont dues à des problèmes, sont dues à des problèmes de production et donc non de distribution, comme le suggère Amartya Sen. Cependant, ce qu'il faut noter, c'est que lorsque les prix sont les plus forts, ce n'est pas là que nous enregistrons la plus grande mortalité. Et à l'inverse, lorsqu'il n'y a pas de mortalité, c'est là que nous enregistrons le plus d'émeutes. Donc vous voyez un peu le problème auquel on est arrivé. Je prends un exemple tout bête, hein, 1768, pas de crise de mortalité. En revanche, aléas climatiques importants, hein, inondations, précipitations, etc. Prix du blé qui augmente. Forte et intensité et rébellionnaire forte. Et là, il y a en effet un autre aspect qu'il faudra comprendre. Et donc, pour compléter et terminer cette analyse, je vais laisser la parole à Cédric, qui va reconstituer, vous présenter la reconstitution qu'on a réussi à faire du niveau de vie en Normandie au XVIIIe siècle, puisque est-ce que ces crises sont perceptibles dans l'évolution du niveau de vie à travers tout le XVIIIe siècle? Et pour cela, eh bien, on a calculé un indice des prix, et on a réussi à collecter plus de 420 observations pour calculer les salaires. Et là, je laisse la parole à Cédric. Et on terminera là-dessus.
L'idée, comme on vous l'a mentionné en introduction, c'est ici de mieux percevoir comment le niveau de vie varie en Normandie à la fois dans le temps et à la fois dans l'espace. Et donc, pour ce faire, on s'intéresse à la question donc, des salaires, donc non pas les salaires nominaux, mais les salaires réels. Donc pour prendre en compte les niveaux de vie. Donc ici, à nouveau, vous voyez les différentes sources que nous avons pu utiliser. Donc si vous voulez des détails sur ces sources, nous pourrons revenir dessus pendant la discussion. Donc globalement, ce que nous avons fait, c'est que nous sommes partis des travaux de la déjà existants dans la littérature, donc comme je vous l'ai montré pour les Pays-Bas, l'Angleterre, la Pologne, etc., pour constituer un panier de biens de consommation, on va dire représentatif ou aussi représentatif que possible, des dépenses d'un ménage au XVIIIe siècle. Donc vous pouvez le voir, ce panier de consommation, il comprend à la fois des grains, mais aussi donc, de l'alcool, des matières grasses, et comme vous pouvez le voir tout en bas, bah, du textile, puisqu'il faut s'habiller, du bois de chauffage, et un montant pour les loyers, d'accord ? Donc, sur la base de ce panier de consommation, on peut estimer la quantité d'argent nécessaire à une personne pour survivre pendant une année. Et évidemment, cette quantité d'argent nécessaire, elle va varier en fonction de l'évolution des prix d'une année sur l'autre et d'un endroit sur l'autre. Donc, ça va nous permettre de comparer à la fois dans le temps et l'espace l'évolution des niveaux de vie entre la généralité de Rouen et la généralité de Caen sur le XVIIIe siècle. Donc, ce que nous avons fait, donc, tout simplement, et ce que faisaient déjà certains historiens pendant les annales, c'est prendre la série de salaires et la déflater par ce nouvel indice des prix à la consommation. Donc, le graphique que vous voyez sur cette diapositive donc, vous représente l'évolution du salaire réel pour la généralité de Caen entre différentes catégories, d'accord ? Puisqu'il est évident qu'un ouvrier qualifié dans la construction, donc comme un maçon ou un charpentier, n'avait pas le même salaire qu'un ouvrier dans le secteur textile ou un ouvrier agricole. Donc nous essayons de faire la différence entre ces catégories. Et vous voyez ici les évolutions que nous pouvons observer. Alors évidemment, on observe encore des variations très fortes puisque nous avons certes 400 points pour les salaires, mais c'est un échantillon, on va dire, assez limité. Et donc certains points, donc par exemple la fin 1720 ici, sont tirés par des ouvriers très qualifiés dans des tailleurs de pierre, donc dans la construction. Donc voilà, il faut qu'on arrive encore à développer un petit peu cet aspect des données pour, on va dire, lisser certaines des catégories. Mais globalement, ce que vous pouvez retenir, c'est que les résultats sont consistants avec ce qu'on peut attendre, puisque les ouvriers qualifiés ont un meilleur niveau de vie que l'ouvrier en construction, qui a un meilleur niveau de vie que l'ouvrier agricole. Si maintenant on s'intéresse à la question du niveau de vie
en Normandie par rapport, on va dire, à l'espace français. Bah, première chose qu'on observe, c'est que, a priori, donc, vous pouvez voir Rouen, donc c'est la courbe violette, et Caen, la courbe verte. On se situe au moins à des niveaux équivalents de Paris et sur la seconde moitié du XVIIIe siècle, à des niveaux supérieurs à Paris. D'accord ? Donc, ce qui, dans une certaine manière, peut questionner ou remettre en cause l'idée du retard français, donc, qui a été avancée par certains historiens de l'économie à la fin du XVIIIe siècle par rapport aux économies, on va dire, émergentes, donc notamment l'Angleterre ou les Provinces-Unies. Donc, si on utilise donc les mêmes graphiques pour Caen et Rouen, mais dans une perspective européenne, vous avez les résultats sous les yeux. Donc, Caen est à nouveau en violet et Rouen en vert. Eh bien, vous pouvez voir que, globalement, sur cette deuxième moitié du XVIIIe siècle, on observe que Caen et Rouen performent relativement mieux que l'espace méditerranéen, mais donc moins bien que, on va dire, vraiment l'espace dynamique de l'Europe à cette époque-là, donc notamment les Provinces-Unies et l'Angleterre. Toutefois, on observe, vous pouvez voir notamment à partir des années 70, des niveaux très très proches. Donc d'où l'importance d'apporter de nouvelles estimations qui permettent d'élargir, on va dire, le cas français au-delà de Paris, puisque du coup Paris n'était pas forcément représentatif du niveau de vie moyen en France. Donc c'est une des choses qu'on essaye de faire dans ce projet de recherche, donc, qui est vraiment en cours. Donc on va continuer à affiner, notamment essayer de compléter les trous. Vous pouvez voir ici l'absence de courbe dans les années 40. Donc voilà ce sur quoi on travaille en ce moment. Maintenant, très rapidement, on essaye de mettre ensemble toutes les pièces du puzzle de ce qu'on vient de vous présenter pendant les 50 dernières minutes. Qu'obtient-on ? Qu'obtient-on ? Eh bien, quelque chose de surprenant, mais pas tout à fait. Les prix du froment par subdélégation, donc pour lesquels nous avons relevé les prix, avec en face le nombre de sépultures pour 1000 habitants. Et vous pouvez voir que la corrélation, notamment mise en avant dans les années 50 par Jean Meuvray, est tout sauf évidente entre prix du grain très élevé et mortalité très élevée. D'accord ? Donc vous pouvez voir ici, a priori, pas de corrélation nette entre ces deux variables. D'accord ? Donc ce que souligne aussi, ce qu'a souligné récemment Isabelle Segui et co-auteur dans une revue de la littérature, sur le sujet, mais ce qui est aussi concordant avec les différents graphiques que nous avons pu vous présenter au cours de ces 50 dernières minutes. Si maintenant on essaye d'aller encore un petit peu plus loin, et ça sera le dernier slide que nous vous présentons aujourd'hui, on peut chercher à estimer l'effet de, merci Paul, de chacune de ces variables pour comprendre comment marche la relation choc climatique, choc économique, augmentation des prix, émeutes de subsistance et potentiellement crise de mortalité. D'accord ? Donc ce que je vous présente ici, et je ne vais pas m'attarder dessus, c'est simplement une estimation donc, d'un modèle de probabilité pour voir si on parvient à prédire l'occurrence de conflit dans une subdélégation à un instant T sur la base des variations climatiques. Et pour faire court et pour faire simple, ce qu'on observe, ce sont les résultats qui sont présentés dans le tableau, c'est que des anomalies climatiques plus fortes augmentent la probabilité d'observer des émeutes dans une subdélégation donnée. Et si vous regardez la troisième colonne, ces mêmes anomalies climatiques ont un effet positif sur les prix du grain. D'accord ? Donc l'idée ici, c'est lorsqu'on observe une hausse anormale de la température, eh bien, dans l'année suivante, les prix du grain augmentent en moyenne de 10% par rapport à la moyenne. Donc évidemment, ce sont des estimations moyennes. Donc voilà un petit peu pour ce qui est possible de faire en fait avec toutes les données que nous utilisons dans cette présentation. Évidemment, ce ne sont qu'un aperçu de nos résultats. Et donc, pour conclure, tu veux conclure peut-être ? Donc pour conclure simplement sur ce projet de recherche, donc pour rappel, notre objectif, c'était de mieux cerner donc cette relation donc, qui a longtemps été étudiée dans l'historiographie française donc, autour de la question donc, émeute, prix, crise démographique, niveau de prix, ça nous permet de participer à un débat plus large, donc, notamment, comme je vous l'ai indiqué, sur la petite divergence en Europe et l'essor ou les causes de l'essor de la révolution industrielle en Europe. Nous utilisons notamment pour ça donc, des nouvelles bases de données démographiques et une nouvelle base de données sur les prix que nous sommes en train de compléter. Et évidemment, à terme, nous voulons affiner ces résultats en étudiant plus en détail le rôle des structures économiques, donc notamment étudier les différences ou le rôle de l'importance du secteur textile contre le secteur de l'élevage, contre la polyculture, pour vraiment avoir une analyse très fine de l'effet de chacune de ces variables sur les variables susmentionnées. Et je crois que c'est tout ce qu'on avait à vous dire.
Si ce n'est que si jamais vous croisez des salaires dans les sources normandes que vous dépouillez, eh bien on est évidemment preneur d'informations. Et merci à vous pour votre attention.